Deuxième acte. Chapitre 1. Le générique de fin avait à peine commencé. Je ne pensais pas que j'allais le répéter, mais bon, au point où j'en suis, ce n'est peut-être plus la peine de faire ma mijaurée, que j'ai dégainé mon portable en l'espérant. En l'espérant, lui. Jean-Baptiste le Warrior. Bien sûr, à l'époque, j'aurais juré mes grands dieux que non et que vraiment n'importe quoi. Mais si je me retourne avec honnêteté sur la grande fille malhonnête qui remontait la rue Caulaincourt cette nuit d'avril, en croisant sur son cœur les pans élimés de son vieux duffelcoat, je la regarde, et je vous le dis, et vous pouvez le consigner, madame la greffière. C'était le film de la séance de 18 heures qui l'occupait. C'était son visage à lui qu'elle arrêtait sur image. C'était leur réplique, inoubliable, qu'elle se repassait en boucle, et c'était ses morceaux de sucre qu'elle comptait de nouveau en broyant dans sa poche un morceau de plastique muet, fondu au noir, coupé. Et ensuite ? Ensuite, la vie a repris son cours. C'est comme ça qu'on dit, non, quand il ne se passe rien. Quand on oublie ses bonnes résolutions, quand on abandonne ses rêves de liberté, pourquoi partir alors que ma chambre venait d'être repeinte ? Et de grandeur, pourquoi reprendre mes études alors que mon ordinateur me servait de bandit manchot ? Et qu'on continue à boire des coups et à en tirer à gauche à droite en s'inventant des comédies pas romantiques du tout. À déshabiller Paul pour rhabiller Pierre, pour se retrouver finalement nu dans les bras de Jacques. Ouais, c'est comme ça qu'on dit. La jeunesse. Cette salle d'attente. Qu'était devenu mon dormeur halluciné ? Un gag. Une anecdote. Une histoire drôle dans les dîners. J'avais mon petit succès noté. Je lui coupais une nouvelle phalange et je lui rajoutais un couteau à chaque fois. À la fin, ce sera Lord of War à la léproserie de Calcutta. Au début, j'y pensais. Il y avait des choses de lui qui me perturbaient encore. Ce « vous venez ?» tellement autoritaire. La méticulosité avec laquelle il m'avait imprimé de la tête aux pieds. Son air douloureux quand il avait parlé de nous revoir. Et le fait qu'il n'avait pas dû tellement fouiller, sans quoi il les aurait trouvés tout seuls mes coordonnées. Et puis, je revoyais ses soquettes blanches et m'en retournais à mes webcoms de beauf avec une inspiration toute renouvelée. Mon brave GPS avait raison. Cul de sac, droit devant. Trois fois, dans les jours qui suivirent, on essaya de me joindre au milieu de la nuit sans laisser de message. La première, j'ai cru qu'il s'agissait d'une erreur. La deuxième, j'ai eu un doute. Et la dernière, j'ai su que c'était lui. J'avais reconnu son silence. Bien qu'il fût 2 heures du matin, j'étais encore debout et avais tenté de le rappeler. Mais c'était un numéro en 01 et mes sonneries se perdirent dans le lointain. Et là, quelque chose a commencé à se détraquer chez moi. J'ai renié l'un de mes rares principes, autant moral que sanitaire, si je puis dire. J'ai dormi avec mon téléphone allumé près de mon oreiller. Tant pis pour les ondes, tant pis pour le cancer, et tant pis pour ma fierté et mon repos. Il fallait que j'en aie le cœur net. Qui donc essayait de me joindre ainsi à la dérobée et en mettant de son côté toutes les chances de ne pas me trouver ? Qui ? Et si c'était lui, pourquoi ? Que me voulait-il à la fin ? Sur le moment, je n'avais pas du tout mesuré la... je ne sais pas, la portée d'un tel acte, et pourtant... comment mieux s'immiscer dans l'intimité d'un autre être humain qu'en s'en prenant à son sommeil ? Désormais, chaque soir, je réglais le volume de ma sonnerie au maximum et partageais mon lit avec un fantôme. Je sortais moins. Oui, ça me tue de l'admettre, et j'avais 1000 raisons toutes prêtes à qui m'aurait titillé sur ce point, mais les faits sont là. Je sortais moins. 10 jours, ou plutôt 10 nuits, ont passé sans encombre, et j'avais décidé de m'éteindre de nouveau car je dormais mal. Je me réveillais de temps en temps pour voir si le petit signal d'appel ne clignotait pas ou si mon téléphone ne s'était pas étouffé sous la couette. Et je lui en voulais. Et je m'en voulais. Ouais, je m'en voulais terriblement d'être devenue si friable. Je nous en voulais tellement que ce soir-là, je me souviens, je me suis couchée en me promettant que c'était la dernière fois, que c'était sa dernière chance de revenir me hanter, qu'il aille au diable avec ses chaînes, ses couteaux et ses appels furtifs. J'étais fatiguée de tout ce merdier. Les téléphones, les textos, les écrans, les chats, les emails, Je ne voulais plus de ces bornes imaginaires sur ma carte du tendre. J'avais donné. J'avais souffert. J'avais payé mon écho à tous ces plans foireux, absurdes et chimériques que nous imposait l'amour au temps du numérique. Oui, j'étais fatiguée. Pire même, je me sentais dépouillée, vidée, désincarnée d'avoir si souvent aimé sans aimer. Maintenant, je voulais de vraies histoires, avec des vrais gens et du vrai gras autour. Autrement, je préférais encore passer mon tour. Et comme il est très fort, et que, question gras, il se pose là, cette nuit-là, il a rappelé. Chapitre 2. Il avait dû sonner plus tôt que les fois précédentes, car j'étais plongée dans un profond premier sommeil, et n'ai pas compris tout de suite si c'était en rêve ou dans la vraie vie que j'allongeais un bras et sentais le dur et le tiède de quelque objet lisse contre mon oreille. Il ne se passait rien. C'était un rêve. Tout en suqué, j'ai fini par murmurer.
« Jean-Baptiste ? C'est vous ?»«
Oui. »
« Les autres fois aussi ? » ?»« Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu ne parles pas ?»
J'étais enroulée autour de mon poing.
C'était long.
C'était beaucoup trop long. Je me rendormais en attendant ses réponses. Je ne sais pas combien de minutes se sont écoulées ensuite. Au matin, mon journal d'appel m'apprendrait que notre conversation avait duré 2h34. Mais j'imagine que j'avais du mal raccrocher. À un moment, j'ai entendu
« Je voudrais ouvrir à manger ».
Là, j'ai ouvert les yeux, et c'est moi qui suis restée sans voix. Il s'est inquiété. « Vous êtes toujours là ?»«
Oui. » »«
Tu sais, je suis cuisinier. » »« Et je voudrais te faire à manger. » »«
Ah, pardon. J'avais compris, je voudrais vous faire à ranger. » Mais on était rendu dans quelle dimension, là ?
Un chef coincé, toqué et insomniaque m'appelait à minuit et quart pour me lire sa carte. Rendormez-vous, les amis ! Rendormez-vous ! Tout est sous contrôle, et bon baiser de Sainte-Anne !
Tu veux bien ?
Maintenant ?
Non.
Sa voix était plus gaie. Il y a de la préparation, quand même.
Quand ?
Je te dirai. Il faut que je m'organise. Tu peux noter un numéro et me rappeler demain soir à la même heure ?
Ben voyons, c'était pratique comme horaire.
Je t'écoute. J'ai attrapé un livre au hasard sur ma table de nuit. Toujours en somnambule, et à la clarté de mon écran, j'ai recopié une série de chiffres sous sa dictée. Ensuite, je ne sais plus. J'ai entendu mon prénom encore une ou deux fois, mais je ne saurais jamais si c'était sa voix ou son écho dans mes vapes. Chapitre 3. Au matin, j'ai su que je n'avais pas rêvé, car un numéro de téléphone était griffonné sur la page de garde, aux ironies de L'épouvantail de Michael Connelly. Le problème, c'est que je devais être bien dans le coltard, car je n'arrivais pas à me relire. Ici, c'était un 7, un 3 ou un 1. Et là, un 2, un 3 ou un 5. Bon, je les essaierai tous. J'étais nulle en maths, et plus encore en calcul des probabilités, mais je subodorais déjà que ce petit tricotin allait me tenir éveillée un moment. L'autre problème, c'est que je ne pouvais décemment pas attendre minuit pour pianoter une série d'éventuels mauvais numéros. Je risquais de réveiller des tas de bonnes gens et de me faire lyncher au passage. Je m'y suis donc mise vers 10h, et bien m'en a pris, car deux plombes plus tard, je ne tenais toujours pas mon lascar. Les voix qui me répondaient étaient de moins en moins obligeantes, et je commençais à m'y perdre dans mes combinaisons. Je ne me souvenais plus de ce que j'avais déjà essayé. Ne cessais de demander des Jean-Baptiste et de répondre des « Oh pardon !» de présenter des excuses, de mettre la pagaille dans tous les foyers d'Île-de-France dont le numéro de téléphone commençait par 0142, 0143 ou 0145, et de « Oh et puis merde !» J'abandonnais. Ça me prenait la tête ce truc. Il allait bien rappeler, lui. Les monomaniaques, ça ne lâche jamais l'affaire. J'étais aussi énervée qu'on puisse l'être, mon super polar tout couvert de ratures et mon portable au bord de l'implosion.
Je suis sortie. Je suis allée prendre l'air avec d'autres insomniaques plus disert. C'est vrai, ça. Il commençait à me les briser, l'autre autiste. Qu'il aille se faire cuire le cul. Qu'il aille faire sa tambouille à des filles dans son genre. En plus, je ne suis pas gourmande. Je me fous de la gastronomie française comme de mon premier bavoir. Moi, tu me donnes un croûton et je suis contente. Ah, comme j'étais mauvaise. Il m'avait gavée avant même de se mettre à ses fourneaux, ce con. J'avais les nerfs en papillote et je rendais de la bile. Il fallait que je raccroche, que j'arrache la prise, que j'oublie toutes ces conneries et que j'enfourche mon Jeannot. Oui, il fallait que j'aille zouker, boire et l'oublier. Et je pédalais, et je pédalais, et je pédalais en déraillant encore. J'apostrophais les étoiles. Je leur disais, « Pourquoi ça tombe toujours sur moi, ces conneries, hein ?»« Oh, hé, le pépé là-haut, c'est à vous que je parle. Pourquoi vous ne m'envoyez que des cas sociaux à la fin ?»« Putain, mais c'est votre boulot, ça, merde ! C'est bon, là ! Vous m'avez déjà bien servi, que je sache !»« mon Dieu, je vous en supplie, abandonnez-moi !»
Chapitre 4. Il n'a jamais rappelé, ni ce soir-là, ni les suivants. Pourtant, je m'étais mise minable encore une pelletée de nuit en omettant d'éteindre ma saloperie de téléphone. Mais non, je m'étais gourée sur son compte. Il n'était pas si barré que ça. Ou alors beaucoup plus. Ou moins motivé que je ne le pensais. Bref, il m'aura fait caguer de bout en bout, ce gros lard. Et la vie, comment j'ai dit déjà, a repris son cours. Voilà. C'est ça. Et merde.
Chapitre 5. Bien sûr, je m'en suis remise. J'étais passée par des moments plus difficiles, comme on dit pudiquement. C'était le printemps. Le printemps à Paris. Le printemps de Cole Porter et d'Ella Fitzgerald. Les terrasses, les promesses et les jours s'étiraient. J'étais vivante et en bonne santé. J'avais d'autres atouts dans ma manche et plus d'un tour dans mon sac. Je le dégageais. Sérieux ? Je l'avais oublié. Et puis un matin, j'ai vidé mon sac, justement. Parce que je voulais en changer. Parce que j'allais à un mariage et qu'il m'en fallait un des plus coquets. Et ce jour-là, surprise du chef, sa bombe glacée et son poulet à la diable. Mon cuisinier est revenu sans crier gare, et là, je me le suis pris grave dans le buffet. Chaud devant, chaud.